Aujourd'hui, dimanche 28 avril, je vais bien. Enfin bien, je vais pas mal. Je vais pas mal, mais je vais pas hyper bien non plus. Cette semaine d'après Pâques et son lot de privations, fut pour moi une semaine chargée en abus de toutes sortes. J'ai mangé comme un goret, du matin au soir, sans limite, sans distinction de quoi que ce fût dans mon assiette. Sinon aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Alors inutile de vous dire qu'à Radio France, ici, on n'est pas trop concernés. Hein. Tenez, prenez le désamiantage. Eh bien ici, bien sûr, on l'a fait, mais de façon plutôt baroque. Hein, pendant les 6 ans que j'ai vécu ici, j'ai toujours trouvé ça louche, les poireaux vinaigrettes de la cantoche de Radio France. Très dur à avaler avec un arrière-goût de poussière, même noyé dans la vinaigrette. Je suis sûr que l'amiante, en fait, on l'a bouffé. Sinon, aujourd'hui, nous célébrons 2 anniversaires majeurs. Le premier, celui d'un homme qui a suivi la logique de son art. Un magicien qui, d'un seul coup, a disparu. Bon anniversaire quand même à toi, Gérard Majax, qui fête aujourd'hui ses 76 ans. Quant à la seconde personne qui fête son anniversaire, il s'agit d'un homme qui nous a quittés trop vite. Ouais. Il n'est plus, mais il restera jamais dans le cœur de tous les hommes d'espoir et de tolérance. Aujourd'hui, il aurait eu 82 ans. Bon anniversaire à toi, Saddam Hussein. Vous les femmes. Bonjour et bienvenue dans Vous les femmes, l'émission du dimanche, podcastable à volonté, les amis, et pour m'accompagner, l'homme qui a tous les talents et qui est sans tabou. C'est à vous, Albert Algou.
Sans tabou et sans complexe. Alors les osios chantent, les oiseaux pépient, la nature est en fête et moi aussi je suis en fête parce que aujourd'hui nous recevons 2 invités. Exceptionnel, que j'admire beaucoup, mais je n'ai pas le droit de dire leur nom tout de suite.
Vous c'est à vous de le faire. Statutairement, ça vous est interdit. Également présent autour de cette table, celui qui possède tous les bons goûts également, l'homme au physique d'enfant mal nourri, mais au savoir de vieillard érudit, Anthony Bélanger. Bonjour, bon dimanche.
Comme je suis heureux de vous voir. En plus, pour une bonne raison, c'est que je suis un homme amoureux aujourd'hui.
Oh là là, je sais, j'ai même été menacé physiquement. Bref, on va revenir là-dessus.
Moi aussi.
Et nos invités en ce dimanche 28 avril sont...
France Inter, vous les femmes, Daniel Morin.
Actrice, réalisatrice, chanteuse, écrivaine, artiste, icône de la nouvelle vague. Elle était muse également, égérie, objet de fantasme pour Anthony Bélanger. Aujourd'hui, c'est la chanteuse qui vient nous voir pour parler de son album « Je suis une aventurière ». Bonjour et bienvenue, Anna Karina.
Merci.
Très, très impressionnant de vous recevoir. Oh, mais moi, ça va très bien. Un peu intimidé.
Ça ne s'entend pas.
Non, mais vous savez, je fais semblant, je fais très bien
derrière
semblant.
Sa barbe.
Et moi donc.
Voilà. Anthony, calmez-vous, vous n'avez pas encore la parole. Face à Anna Karina, championne de tennis, elle fut 7e joueuse mondiale. Elle remporta Wimbledon en 2013, consultante sport, auteure, mais aussi créatrice d'une ligne de bijoux, de vêtements. Elle a également lancé un yaourt glacé, croyez-moi, on va en reparler. Connue pour son coup droit et son revers à deux mains, elle vient nous voir aujourd'hui pour un livre écrit à 4 mains, cette fois, Renaître. Bonjour et bienvenue Marion Bartoli.
Bonjour à tous, merci de m'inviter. Oui, bien sûr.
On va parler de votre vie, on va parler de votre parcours. Vous êtes une de nos plus grandes sportives. Et on va avoir aussi pour témoigner un de vos amis, vous le connaissez très bien, c'est monsieur Fabrice Abgral.
Depuis très, très, très longtemps, Fabrice.
Depuis très longtemps. Fabrice qui est un petit peu partout, hein, c'est un petit peu la vedette de Radio France. Alors voilà une présentation, j'en conviens, un peu sommaire, les amis. Pour vraiment mieux vous connaître, je vais laisser la parole à un ami et cousin d'un célèbre ancien agent de star. Il est l'orthophoniste des plus grandes vedettes. Donc c'est à vous et bonjour, Jean-Dominique Bessin.
Bonjour, salut vous les femmes, coucou les filles, bonjour les garçons et bon dimanche à tous les autres.
Dis donc, vous êtes bien enjoué Jean-Dominique.
Enjoué et en joie, c'est sûr, mais aussi super impressionné comme vous. Ouais. Comment ne serait-ce point avec 2 invités de cette dimension, 2 légendes, 2 icônes du cinéma et de la chanson avec Anna Karina, du sport et du tennis avec Marion Bartoli.
C'est vrai, on est très heureux de les recevoir, Anna Karina et Marion Bartoli.
Je sais que mon cousin Dominique... Dominique Bessinard nous écoute en ce moment. Il serait jaloux. En tant qu'ancien coach des stars de la chanson et du cinéma, oui, il va être jaloux. Même si je sais que cette émission va le passionner, comme moi, parce que j'ai lu Renaître, le récit autobiographique.
C'est dur à dire.
Récit autobiographique de Marion Bartoli.
Ah oui, j'ai l'impression que ça vous a impressionné, Jean-Dominique.
Alors, en tant qu'orthophoniste des stars, vous avez dit mon boulot et de la chanson et du cinéma, sachez que les pires exercices de diction, de prononciation, d'articulation que je fais faire à mes patients du showbiz, c'est de la piste de chat, de la gnognotte à côté du coaching que Walter, son papa coach, intraitable, hein, c'est comme ça qu'il est défini, page 90, a fait endurer à Marion Bartoli, la machine à balles qui donne des envies de meurtre, l'électrostimulation qui fait hurler de douleur, cœur, la raquette en plomb. Aïe, ça fait mal. Les poids accrochés aux genoux, c'est lourd. Et le tubing avec les élastiques, ça tire. Un vrai chemin de croix. In fine, qui c'est qui a gagné le plateau d'argent à Wimbledon? C'est Marion.
Et pour passer à notre invité, j'ai l'impression que Je suis une aventurière, l'album d'Anna Karina, vous a aussi beaucoup impressionné.
Impressionné et enchanté, pour pas dire fasciné, à la fois par l'actrice et la chanteuse. Et ce titre, Je suis une aventurière, si vous saviez comme ça me parle, c'est tout moi, mon portrait tout craché.
Tout craché, mais c'est pas une raison pour postillonner sur tout le monde.
Bah, respecte ma différence.
Oui, oui, bon, nous aussi, respectez-nous.
Bon, où en étais-je avant que vous
m'interrompiez? Je sais pas, allez-y.
Ouais, ah oui, une aventurière. C'est une personne qui, pour paraphraser Baudelaire, j'ai les lettres, ose plonger dans l'inconnu pour trouver du nouveau, sans en redouter les risques. De Godard au Gelb, je prononce mal, en passant par Michel Le Gant.
Si vous voulez recommencer, c'est
le plaisir. Gainsbourg, Denis Berger, Philippe Catherine et tant d'autres artistes, vous avez toujours eu l'audace d'innover et de surprendre, chère Anna Karina, comme moi.
Ah, quelle modestie, Jean-Doux.
Mais non, je déconne. Ah, c'est pour vous faire bisquer, bisquerage. Et comme ça, on a une chute et vous pouvez enchaîner.
Hé, hey, quelle
Salut.
Belle chute, en effet. Merci, Jean-Dominique.
Magnifique interprétation.
Ah, vous avez vu, c'était pas mal.
Une chanson incroyable.
C'est gentil.
Il a été mentionné par Jean-Dominique
c'est
tout à
super.
L'heure. On retrouve maintenant Anna Karina avec un ami.
Anna, qu'est-ce que ça fait comme effet de chanter?
Ah, ça, je ne sais pas, mais je suis très contente de chanter la chanson de Gainsbourg. Vous le connaissez, Gainsbourg?
Oui, je le fréquente.
Non, je trouve qu'il m'a écrit une très jolie chanson qui s'appelle « Sous les soleils » exactement. Ouais. À part ça, on ne peut pas dire que je chante puisque j'ai fait une comédie musicale et qu'on a tiré un disque d'après cette comédie musicale.
Ça s'appelle pas chanter, ça?
Si, mais on ne peut pas dire que je suis chanteuse, voilà.
Ouais. Tout en nuance.
Du Capricorne ou du Cancer. Depuis j'ai oublié lequel. Sous le soleil exactement. Pas à côté, pas n'importe où. Sous le soleil exactement, juste en dessous. Dans quel pays, dans quel district? C'était tout au bord de la mer. Depuis j'ai oublié laquelle. Sous sous le soleil, exactement, juste en dessous. Était-ce là, Nouveau-Mexique, vers le Cap Horn, vers le Cap Vert? Sous le soleil, exactement, juste en dessous. C'est sûrement un rêve érotique que je me fais les yeux ouverts. Et pourtant si c'était réel, sous sous le soleil, exactement, juste en dessous.
Anna Karina, sous le soleil, exactement.
Vous les femmes?
Et uniquement les femmes.
Daniel Morin.
Ah oui? les femmes vont apprécier.
Sur France Inter.
Anna Karina qui vient nous présenter son album compilation Je suis une aventurière chez Ballandra.
Ballandra.
Ah bah dis donc, c'est marqué comme ça, hein, c'est moi, c'est ma bouche qui marche plus.
Et
nous sommes également, nous sommes également avec Marion Bartoli, qui vient nous voir pour son dernier livre paru chez Flammarion, Renaître. Mesdemoiselles, nous allons revenir sur quelques dates importantes de vos parcours. On commence par vous, si vous le voulez bien, Marion.
Absolument.
Février 1992, premier tournoi remporté à Retournac.
Retournac, Haute-Loire, effectivement, j'avais 6 ans et quelques mois. Mon premier tournoi, il n'y avait que 4 joueuses, donc c'était pas totalement le tableau Wimbledon à 128.
Mais... Ah, vous êtes arrivé directement en demi-finale.
J'étais directement en demi-finale. Il y a eu quand même des poules parce qu'il fallait tellement rajouter des matchs qu'on a fait d'abord des poules avant une phase finale. Et le stress et l'angoisse et la peur de perdre déjà qui était là et archi présente. Et voilà, ça a été une date marquante pour moi parce qu'à ce moment-là, mon papa a réellement senti ce stress. Il aurait pu avoir une réaction différente en me laissant à la maison et en écoutant ma maman qui lui avait dit « Mais surtout, mais l'envoie pas sur le terrain, mais t'es complètement fou, mais elle a que 6 ans, mais laisse-la tranquille. » Et puis non, petit à petit, il m'a aidé à surmonter effectivement cette difficulté à avoir peur de décevoir finalement. Et puis j'ai remporté ce match et ça a été le point de départ. Et j'ai encore gardé la coupe et aujourd'hui à la maison, effectivement, j'ai la petite coupe du premier tournoi que j'ai remporté.
1992, vous regardez la finale de Roland-Garros. Alors on reconnaîtra la furieuse qui hurle, c'est
Monica Seles face à
Steffi Graf. Alors c'est la révélation, ça va changer quelque chose dans votre jeu.
Oui, absolument. À l'époque, c'était vraiment les deux plus grandes joueuses mondiales. Et soit on était pour Steffi avec son élégance, sa grâce sur le terrain, son jeu de jambes, soit pour Monica Seles avec plus de hargne. C'est un petit peu les Roger Federer, Rafael Nadal de l'époque.
Oui, c'est ça, ouais.
Et c'est vrai que pour moi, ça a été une révélation d'avoir joué à deux mains des deux côtés. Je suis une gauchère naturelle et j'ai appris à jouer au tennis de la main droite puisque mon papa est droitier. Ça a été le premier à montrer comment jouer au tennis. Et donc, j'avais vraiment de très gros problèmes côté coup droit, n'ayant pas assez de force. Et puis, on a vu Monica jouer à deux mains sur son côté coup droit. On pensait même pas que c'était possible. Nous, on connaissait absolument rien au tennis. Et puis du coup, mon papa m'a dit, bah, écoute, essaye le lendemain pour voir si ça te convient. Et j'ai essayé à partir de là.
Et naturellement, ça a fonctionné.
Et à partir de là, effectivement, ça a fonctionné. Et puis surtout, j'ai eu l'immense chance de rencontrer Monica quelques années plus tard et de l'affronter sur le circuit professionnel. Et ça a été un immense moment pour moi.
En septembre 2001, c'est l'US Open Junior.
Oui, oui. Premier tournoi junior du Grand Chelem remporté. Absolument. Et puis, j'ai quitté New York la veille du 11 septembre. Et donc,
Vous avez bien fait.
le matin, donc ensuite après mon titre, c'était le premier jour finalement de touriste que j'avais à New York, puisque j'étais arrivée d'un tournoi précédent au Canada, j'avais pas eu le temps de visiter absolument rien, je faisais que l'hôtel, le tournoi. Et donc mon papa me demande ce que je veux visiter dans Manhattan et je lui dis, on va se promener à Times Square, j'aime bien être dehors, j'aime bien voir les magasins. Il me dit, mais c'est sûr que tu veux pas aller voir les tours jumelles, c'est quand même un monument iconique de New York. Je lui dis, non, mais j'aime pas trop être enfermée dans des tours, c'est pas trop mon truc. Et donc on allait sur Times Square, on a pris l'avion le soir, on atterrit le lendemain matin à Paris et là on a vu les images. Oui.
Ouais, ça doit être un souvenir assez particulier, surtout quand on était la veille. On passe à 2007, vous êtes à Wimbledon, vous êtes en finale et vous perdez face à Venus Williams.
Oui, ça a été un immense regret pour moi. C'est vraiment, lorsque je me retourne aujourd'hui sur ma carrière, le plus grand regret avec ma demi-finale de Roland-Garros.
C'est cette finale face
cette
à
finale de Wimbledon, parce que j'étais vraiment lancée dans mon tournoi. J'avais battu toutes les plus grosses têtes de série, dont Justine Henin, numéro 1 mondial, en demi-finale avec un match à rebondissement. J'aurais pas dû remporter ce match. C'était ma première fois sur le court central. Et puis, il y a eu Pierce Brosnan qui est arrivé dans les tribunes. Et ça a tout changé.
C'est dingue, ça.
Ça a tout changé parce que finalement, je me suis mis à jouer plus pour lui que pour le reste. Et donc, je suis arrivée
à renverser.
Elle
est comme ça, Marion Bartoli. Hein, si elle vous aime bien, elle joue pour vous. Alors,
exactement. surtout si j'apprécie un homme, effectivement, ça peut me donner des ailes. Mais voilà, je suis arrivée à renverser ce match, mais à le remporter. Et je me retrouve sur la finale de Wimbledon, mon match rêvé. J'étais plus qu'à un match de mon rêve.
Avec moins de temps de récupération.
Avec beaucoup moins de temps de récupération, parce qu'effectivement, à l'époque, il n'y avait pas de toit sur le court central de Wimbledon. Et ça a été un des Wimbledon les plus pluvieux de l'histoire du tournoi. Et donc, j'ai dû enchaîner ma demi-finale vendredi soir très tard et revenir samedi à 14h sur le terrain. Et l'enchaînement était très difficile. Peut-être que j'aurais perdu ce match, même si j'avais été à mon meilleur niveau. Mais là, j'ai vraiment pas pu défendre mes chances à 100%. Et ça a été un immense regret pour moi. J'ai d'ailleurs mis un an et demi à m'en remettre psychologiquement pour pouvoir repartir dans les défis qui étaient les miens.
Et vous êtes bien reparti parce que 6 juillet 2013, Même endroit, mais pas même résultat.
Marion Bartoli va prendre maintenant un maximum de risques. Et attention, première balle de match pour Marion Bartoli sur sa mise en jeu. Elle essaye un ace, et c'est fait ! Sur un ace, elle tombe ! Marion Bartoli à genoux, elle se relève, elle n'y croit pas ! Un ace de Marion Bartoli qui lui donne la victoire sur Sabine Lisecki. Elle entre dans l'histoire, Marion Bartoli.
Elle entre dans l'histoire. Qu'est-ce qui l'a fait rentrer dans l'histoire? Cet homme qui a une voix complètement éraillée. On sent qu'il est à deux doigts de dire « Parce que c'est notre projet !» Mais pas du tout. Ce n'est pas du tout Emmanuel Macron. C'est Fabrice Abgral là, qui vient, évidemment, vous gagnez Wimbledon. Fabrice Abgral, bonjour.
C'est magnifique.
Bonjour.
Fabrice, donc, vous vous souvenez forcément, ça vous a rapporté une récompense, ce commentaire, en plus.
Oui, c'est vrai, ça.
Récompense,
oui.
Oh, il est tout timide, comme si, le micro d'or.
Non, mais c'est toujours beaucoup d'émotions. Donc, mais elle le sait, en plus.
Ben oui, on a parlé de vous, évidemment, tout à l'heure, quand vous n'étiez pas là. Marion Bartoli, c'est quoi sa spécificité? Qu'est-ce qui la caractérise?
Oh là là, il y aurait tellement de choses à dire. Moi, je la connais depuis 2001, Marion Bartoli, donc vous imaginez bien. Donc, depuis sa victoire à l'US Open en junior, j'ai eu la chance de suivre toute sa carrière. Et quand je dis une chance, c'est une véritable chance parce que Marion nous a fait vivre des grandes émotions. Alors, avec évidemment cette victoire à Wimbledon en 2013, c'est vraiment un moment exceptionnel d'une très grande intensité. Marion rejoignait les plus grandes dans le temple du tennis et plus c'était le tournoi qu'elle rêvait de gagner, peut-être même plus que Roland Garros d'ailleurs. Et c'était aussi pour elle enfin une sorte de reconnaissance pour tout le travail qu'elle avait fourni jusque-là pour y arriver. Parce que s'il y a bien une chose qui caractérise Marion Bartoli, bien c'est le travail. Marion Bartoli n'avait pas un tennis très académique, elle en a parlé un petit peu tout à l'heure. Elle avait du talent parce que pour arriver à ce niveau-là, il
en
faut
du talent. Vous nous disiez, il y a quelques temps, quand on a parlé de cette émission, elle jouait comme une passoire. Non, c'est totalement faux.
Non, je pense pas avoir fait ça.
Non, mais c'est pas grave. Franchement, j'accepte toutes les critiques. Il y a aucun problème.
C'est faux, c'est faux.
Il y a quelque chose de très important. C'est que c'est vrai qu'elle avait du talent, mais elle n'avait pas forcément un talent naturel. Elle a fallu qu'elle bosse techniquement et physiquement pour rivaliser et battre les meilleurs. Alors, si je devais simplement retenir quelque chose de Marion Bartoli, c'est peut-être son courage, sa détermination, sa volonté de réussir, la volonté de tout mettre en œuvre pour devenir une athlète et la championne que l'on connaît. Elle fait toujours les choses à fond, Marion Bartoli. Que ce soit dans la mode, dans son rôle de consultante, ou quand elle a décidé de participer et surtout de finir le marathon. Croyez-moi, Marion Bartoli, elle ne lâche rien.
Donc Marion
Bartoli.
Elle ne
lâchera rien dans cette émission, croyez-moi.
Ah, ça je le sais. Elle m'a déjà menacé une fois. Elle m'a menacé une fois, déjà, hein, alors que ça n'a pas commencé depuis longtemps. Et justement, elle me disait que, oui, évidemment, souvenir formidable, 2013 Wimbledon, mais elle me parlait aussi de 2007. Comment on aborde l'interview de quelqu'un qu'on connaît bien, alors que, évidemment, la frustration est énorme puisqu'elle vient de perdre?
Bah c'est gênant en fait.
Ça doit être hyper dur.
C'est super compliqué. Mais elle est pro, Marion Bartoli. Marion Bartoli, elle est pro sur le terrain, puis elle est pro surtout aussi à l'extérieur du terrain. Quand elle doit passer en conférence de presse, elle a assumé tout ça, elle a assumé cette défaite. Elle l'a très bien expliqué et c'est vrai que nous, on est un petit peu gênés, on était tristes pour elle. Mais c'est vrai qu'on était là avec elle et on avait perdu avec elle quelque part, comme on a gagné avec elle en 2013. Comme vous l'avez senti, j'imagine.
J'imagine, parce que là, on sent beaucoup d'émotions quand elle gagne. J'imagine que dans l'autre sens.
Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose.
Dites-moi.
Je vais vous dire quelque chose. Le meilleur souvenir, c'est Wimbledon 2013 quand elle gagne. Mais le meilleur souvenir.
C'est l'enfant que vous avez eu ensemble, c'est ça?
Non, c'est le lendemain. Quand elle a reçu la presse dans la maison qu'elle avait louée avec son papa. Je sais qu'elle s'en souvient. Elle était radieuse, elle était rayonnante, elle était épanouie, elle était en suspension véritablement. Elle volait, elle était comblée, véritablement. Elle avait réalisé son rêve de gamine quand elle s'entraînait avec son père. Quand son père, à l'entraînement, lui envoyait des balles, parce qu'elle nous avait raconté cette anecdote, et son père qui lui disait « Allez, imagine que t'es à Wimbledon en finale et que c'est une balle de match. » Eh bien voilà, quelques années après, cette balle de match, elle l'a concrétisée.
Super. Merci Fabrice. Fabrice, je sais que vous êtes pressé. C'est très gentil d'être passé nous voir. Très gentil d'être venu.
Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de vous entendre. Ça fait plaisir d'être avec Marion. Et vraiment, elle nous a fait passer des très, très grands moments.
Mais je t'adore, tu le sais bien.
Je t'embrasse fort.
Bon, ça suffit. Bon, ça suffit tous les deux. Je suis hyper possessif. Merci. Mille merci encore, Fabrice. À très bientôt.
À bientôt.
Alors, on va revenir sur une date hyper importante. On va revenir justement sur une anecdote aussi importante que Wimbledon, je pense. C'est que vous vous lancez dans les hordes glacées à la même époque. Ouais. Qu'est-ce qui vous a pris?
Non, mais en fait, j'adore ça moi-même.
C'est pas une raison.
Si. Et en fait,
j'aime les raviolis. Je me suis pas lancé dans les pâtes.
Non, mais je vous explique très rapidement.
S'il vous plaît.
En fait, je faisais une course caritative pour Richard Branson, qui est
PDG de Virgin.
Voilà, qui est un ami et puis un fan de tennis, etc. Et donc, on parlait de business, parce que quand vous avez la chance de rencontrer une personne aussi iconique dans ce milieu-là, vous lui posez forcément beaucoup de questions. Et donc, je lui demandais comment il avait monté parfois ses entreprises, celles qui avaient échoué, celles qui avaient réussi, quelles étaient les différences finalement entre ses échecs et ses réussites. Et donc, il me dit, il faut être passionné par quelque chose, il faut vraiment l'aimer, il faut y penser systématiquement, un petit peu comme le tennis. Et moi, ma passion, et ce que je pense toute la journée, c'était effectivement à cette époque-là de manger beaucoup de yaourt glacé. Alors il me dit, écoute, si tu as vraiment cette passion et cette envie de le faire, au moins essaye et tente-le. Après, associe-toi à un partenaire qui semble effectivement avoir un sens avec ton histoire, etc. Donc je l'ai fait avec Wimbledon, ça a été quelque chose de sporadique. En plus, ça a super bien marché, donc j'étais contente. Mais ça s'est resté que sur 15 jours, hein. Ça n'a pas non plus été une carrière dans l'yaourt glacé.
On passe en 2019 et vous venez nous voir pour votre livre Renaître, sorti chez Flammarion, sorti il y a 4 jours à peine. Alors Marion Bartoli, c'est le tennis, vous dites « Tout est clair pour moi, tennis ». Et papa. Ouais. Alors, quelle est l'importance de papa? Elle a l'air majeure. Alors, je récapitule vite fait. Alors, papa est médecin.
Oui.
Il commence à vous entraîner. Et à un moment, il se donne 3 ans pour que vous intégriez le top 100 mondial.
Adulte. Absolument. Ouais. Absolument. J'ai
grosse pression quand même.
Énorme pression. Effectivement, donc, nous habitions à un tout petit village de Haute-Loire avec aucun moyen tennistique, on va dire, digne de ce nom, puisqu'on n'avait même pas un court couvert de tennis pour pouvoir s'entraîner l'hiver. J'étais obligée de m'entraîner dans un boulodrome où c'était du goudron par terre. Donc, c'est comme si je m'entraînais sur la route. C'était exactement la même chose. C'était pas chauffé. Enfin, c'était vraiment des conditions extrêmement difficiles, mais ça a été pour moi... Ça m'a servi énormément, puisque finalement, je suis arrivée sur le circuit en concurrence avec beaucoup de joueuses des pays de l'Est qui ont également des conditions très difficiles. Et on avait du coup le même mental et la même force de caractère et la même combativité. Donc, je ne regrette absolument pas d'avoir grandi à Rotornac et ça m'a énormément aidée. Mais on s'est retrouvés avec, à un moment donné, un choix à faire. Mon papa ne pouvait plus continuer à travailler en tant que médecin toute la journée à Rotornac et m'accompagner sur les plus grands tournois du monde junior. Dans la planète entière, c'était plus possible.
Donc, oui, mais les conditions d'entraînement étaient parfois, enfin, ont l'air inhumaines comme ça. On en parlait avec Alberto. Enfin, il en parlait tout à l'heure en plaisantant, mais la plaisanterie part de quelque chose de vrai, c'est-à-dire la raquette qui était lestée, une raquette en plomb.
Non, absolument, c'était des conditions.
C'est exigeant, mais c'est pas trop dur.
C'était des conditions extrêmement difficiles et c'était effectivement des souffrances physiques qui étaient très importantes, mais c'est la seule façon de réussir au plus haut niveau. Ouais. On ne peut pas prétendre à rentrer dans l'histoire de son sport à moindre mesure, et j'en ai gagné qu'un tournoi du Grand Chelem, j'ai pas non plus le palmarès de Serena Williams, mais j'ai fait ce que j'ai pu avec mes moyens.
Bah, vous n'êtes pas nombreuses en France à avoir gagné des tournois du Grand Chelem.
Oui, effectivement, mais en plus... N'ayant pas de faculté particulière physique à pouvoir réellement être au-dessus du lot dans mon sport, il fallait vraiment que je m'inflige des entraînements nettement plus durs que les autres. Et ça a été vraiment un projet de vie commun avec mon papa, où il s'est servi énormément de ses connaissances médicales pour jamais me mettre en danger physiquement. J'étais jamais en danger, mais par contre, systématiquement me pousser à mes limites et connaissait mes limites. Ça, je pense que seul un parent peut effectivement avoir être aussi investi dans un projet pour la réussite d'un athlète, parce que seule la fibre familiale peut vous permettre effectivement de vous entraîner. On s'entraînait parfois jusqu'à 1h du matin. J'allais à l'école le lendemain à 8h, mon papa reprenait son travail le lendemain. De tels sacrifices ne peuvent être faits que par un membre de sa famille qui veut vos réussites autant que vous le souhaitez finalement.
Et même pour vous, de pouvoir l'accepter de la part de quelqu'un d'autre, peut-être que vous ne l'auriez pas accepté.
Oui, absolument. Pour moi, l'acceptation de la souffrance faisait partie de ce que j'étais prête à faire pour réussir. Depuis ma plus tendre enfance, alors avec mes yeux d'enfant, peut-être de façon un petit peu exagérée, mais c'est comme ça que je le ressentais. J'avais l'impression que mes parents vivaient dans une grande souffrance, que mon papa avait beaucoup de mal à être autant dans un petit village, avec autant de difficultés, avec autant de problèmes, de patients avec le cancer, avec le sida, etc. Et moi, je voyais ça tous les jours. Et je me disais, mais il faut absolument qu'on sorte de là. Il faut que j'arrive à sortir mes parents d'ici, mon frère d'ici.
Vous aviez quel âge à l'époque ?
J'avais 9-10 ans quand je pensais ça déjà.
Ouais, pas très normal pour une fillette de 9-10 ans. Vous voulez dire quelque chose, Alberto ?
Oui, je voulais dire que votre père, ça a été un coach très inventif en plus. C'est-à-dire qu'à toutes les périodes de votre carrière, il renouvelle l'entraînement, il invente des trucs. Et il est un coach en dehors des circuits, j'allais dire, professionnels, traditionnels. Et en fait, il est même à la limite meilleur qu'eux, parce qu'il invente des trucs, bien sûr parce qu'il vous connaît bien. Mais en même temps, il a un côté génial quoi, dans sa manière de faire.
Oui, absolument. Mais c'est pour ça que j'ai une admiration absolument incroyable pour mon papa et elle reste toujours égale aujourd'hui. C'est lui qui m'a formée. Sans lui, je n'aurais jamais réussi cette carrière-là, malgré la volonté que j'avais de le faire. Jamais je n'y serais arrivée. Et effectivement, je pense qu'il a utilisé toutes les connaissances médicales et les connaissances biomécaniques du corps humain pour finalement comprendre ce qui étaient mes défaillances et arriver à mettre des systèmes en place pour que je réussisse. Et donc, on restait 4, 5, 6, 7 heures sur le terrain consécutif jusqu'à trouver le truc qui allait marcher. Et généralement, là où c'était pour moi fantastique, c'est que ça marchait extrêmement vite. On le voit avec l'électrostimulation. Je suis passée de 2007, au début d'année, où je gagnais pas un match, où c'était catastrophique, où j'étais complètement démoralisée, à d'un coup, en un mois, je faisais finale de Wimbledon. Donc en plus, il y a ce côté coup de baguette magique, entre guillemets, où il arrive avec la solution, ça fonctionne, ça marche, je réussis. Donc j'ai une reconnaissance éternelle pour tout ce qu'a fait mon papa dans ma réussite, absolument.
Et dans le livre, vous dites également que vous avez connu des moments hyper difficiles. Vous avez même mis votre vie en danger. Perte de poids de folie et même la direction d'un tournoi hyper soucieuse de votre santé a refusé que vous participiez à un tournoi des légendes.
Absolument.
Alors aujourd'hui, vous êtes superbe, vous avez l'air d'être en pleine forme.
C'est gentil.
C'est vrai ou pas? Vous êtes en forme ou pas?
Je suis en pleine forme.
D'accord.
Je ne peux pas être plus en forme que ça.
Ok, en plus vous êtes amoureuse. Mais à l'époque, c'était une relation toxique qui était à l'origine de ça. C'est bien ça?
Oui, absolument, absolument. J'ai rencontré effectivement mon ex-compagnon pendant Roland-Garros 2014, où j'étais dans une période de ma vie où effectivement je venais d'arrêter ma carrière, mais à la fois j'étais encore tenant du titre de Wimbledon, puisque Wimbledon était 3 semaines plus tard. Mmh. Et donc je ne savais plus vraiment qui j'étais. J'avais besoin de combler un vide énorme parce qu'il n'y avait plus l'adrénaline des matchs, il n'y avait plus les applaudissements, il n'y avait plus les cours centraux du monde entier. Et donc, il fallait que j'ai, entre guillemets, quelqu'un à côté de moi pour oublier tout ça. Et c'est tombé sur lui. Et par contre, lui a été... vraiment avait un objectif au quotidien, c'est de me rabaisser en permanence. Donc, il y est arrivé petit à petit, ça c'est certain, avec... au final, pour moi, j'avais plus envie de vivre, tout simplement. Donc, la vie m'était insupportable. J'avais plus envie de vivre. Et finalement, la perte de poids dramatique que j'ai eue pour descendre jusqu'à 40 kilos n'était que le reflet de mon envie de plus être là, tout simplement. Et il a fallu effectivement que je me batte. Et en particulier, ce tournoi de Wimbledon qui m'a refusé de jouer le tournoi des légendes parce qu'ils avaient tout simplement peur que je fasse un infarctus sur le terrain et que mon cœur s'arrête. Ça a été l'électrochoc qui m'a fait rager en disant non, vous pouvez tout m'enlever dans ma vie, mais vraiment tout, mais pas le tennis.
Donc cet individu dans le livre, vous l'appelez simplement par une initiale.
Oui. Et il mérite pas plus.
Faut se méfier des gens qui ont un prénom qui commence par D. Je l'ai toujours dit, sont des salopards finis. Vous avez bien raison. En tout cas, vous voyez, dans ce livre, René de chez Flammarion, rien n'est occulté. Oui. Vous êtes totalement.
C'est une franchise totale.
D'une franchise totale. Donc voilà, c'est chez Flammarion pour mieux connaître Marion Bartoli. On peut pas vous dire mieux. Merci Marion.
Merci à vous.
Anna Karina, on va venir sur quelques dates de votre parcours. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a des crèmes glacées ou pas? Non? Mais il y a d'autres choses. 1958, Coco Chanel, carrément, vous rebaptise.
Oui.
C'est incroyable cette histoire.
Voilà. Mais j'y arrive du Danemark avec le train et voilà. Je suis un peu. Voilà. Dans la misère, on peut dire, parce que évidemment, j'avais pas d'argent du tout.
Vous connaissiez personne à Paris.
Et donc, je vais au Demingo, comme ça, sur des chaussures un peu esselées, avec un imperméable un peu trop grand et tout. Et là, il y a une dame qui me regarde et qui me propose de faire des photos pour Jour de France. Voilà.
D'accord.
Et donc, j'étais un peu méfiante parce que mon grand-père m'avait dit il faut pas parler aux étrangers. Et
il a raison.
C'est du moins l'étranger.
Et comment vous rencontrez Coco Chanel alors?
Alors, voilà, je fais des photos et puis elle dit je ne peux pas te payer. Alors, j'étais presque en larmes parce que j'avais faim et j'étais maigre. Hein. Donc, elle m'a dit mais je vais te donner des adresses. Donc, elle m'a donné l'adresse de Hélène Lazareff, le journal Elle, pour faire des photos d'essai. Et voilà, je fais des photos d'essai avec une espèce de gilet jaune et puis. Ou
déjà,
maquillage.
Déjà, première gilet jaune, Anna Karina.
Oui, pardon. Une veste jaune, disons.
Non, mais vous l'avez dit, gilet jaune.
Mais c'est vrai qu'elle était jaune. J'ai encore la photo à la maison. Et donc, je vais au maquillage. Et puis, tout à coup, je parle anglais avec la maquilleuse parce que je parlais très bien anglais, parfaitement bien. Et il y a une dame qui arrive comme ça, avec un grand chapeau, etc. Et qui dit « What's your name, little girl ?» J'ai dit « Je m'appelle Anne-Karine Bayer, c'est mon vrai nom. » Elle m'a dit « Et j'ai entendu que tu disais à la maquilleuse que tu vas être comédienne plus tard. » J'ai dit « Oui, mais il faut que j'apprenne le français. » C'est plus en anglais, bien sûr. Et donc, elle me dit « Bon, mais écoute, tu vas pas t'appeler comme comédienne Anne-Karine Bayer, Anne-Karine Bayer, tu t'appelleras Anna Karina. » Elle m'a dit ça, c'est sur un ton autoritaire. C'est juste formidable. Moi, j'aime bien ce nom.
Du moment qu'on me donne du boulot, moi, je veux bien. Voilà,
c'est ça. Et j'ai eu la couverture du journal.
Ah, bah voilà, ah, comme
génial. Miracle.
Ça a marché. On va parler d'une rencontre aussi très, très importante, primordiale. D'une vie carrément, rencontre avec Jean-Luc Godard, c'est en 58-59, et Godard, il vous repère grâce à une pub.
Oui, mon savon n'est pas, comme les autres.
Mon savon, pas comme les autres.
Il n'est pas comme
Racontez-nous
les autres.
Racontez-nous cette rencontre.
Alors voilà, je suis convoqué, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais évidemment, Catherine Arlet, mon agent, à l'époque, il me dit, non, tu y vas, parce qu'il vient de faire un film. Alors, je vais le voir, il me dit, c'est un rôle, un petit rôle. Il y a Tine Siberg et Jean-Paul Belmondo, et c'est un petit rôle, on me dit, où il faut se déshabiller.
Ah.
Alors j'ai dit, ah non, je ne me déshabille pas. J'ai dit, mais je vous ai vu toute nue, là, dans la baignoire.
Oh, c'est très chaste, on l'a revu, il y a quand même de la mousse.
Il a bien regardé, il a bien regardé.
J'ai regardé plusieurs fois, même au ralenti, on ne vous voit pas nu.
Non, c'est pas possible, parce que je n'ai pas voulu me déshabiller.
On passe à 1965, c'est Pierrot le Fou.
J'écris.
Ah, j'écris Belmondo, mais foutez-lui la paix. Alors, c'est une phrase culte. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Et qui n'était pas au scénario de Godard.
Non. Et voilà, Jean-Luc me dit, tu marches sur la plage. Il y a Jean-Paul en train d'écrire plus loin, sur le ponton, là. Et toi, tu marches. Et j'ai dit, ah oui, c'est très bien. Alors, je peux peut-être jeter des cailloux, faire quelque chose comme ça. Et puis, à part ça, qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Il me dit, c'est ce que tu vas dire.
Comme quoi, ça tient à pas grand-chose. Voilà. Et il y a aussi l'épisode de la petite robe prisue.
De prise unique.
Oui. Et il y a un souci, elle se met à rétrécir effroyablement.
Oui, alors voilà, on tourne. Et puis, il y a la voiture qui va dans l'eau, là, dans la Méditerranée. Et là, je sors, et puis on me dit, bon, il faisait tellement chaud, ça va sécher sur toi, me dit Gite Magrini, qui était costumière.
Ouais, costumière.
Alors, je dis, très bien, et voilà, on déjeune et tout ça, et le soleil frappe. Et tout à coup, il y a la robe qui devient un t-shirt.
Qui rétrécit.
Mais heureusement. Là, ça fait rire tout le monde, bien sûr. Elle l'avait en 3 exemplaires. Ben donc
ben
ça
voilà. Et ben voilà, des gens prévoyants. Allez, on fait un énorme bond dans le temps. On arrive en 2000, l'album avec Philippe Catherine, suivi d'une tournée mondiale, carrément.
Ah oui, ça c'est vrai.
Ça va être un souvenir formidable.
Ah, génial. Ah, là.
Ça, c'est un personnage, Philippe Catherine également.
Ah oui. Et j'ai un coup de fil de Jean-Marc Congé. Il demande à Philippe Catherine s'il veut bien écrire pour moi et s'occuper de la musique et tout.
Bien sûr. Vous avez tourné 2 films en plus.
Il a pris ça pour une plaisanterie parce qu'il connaissait déjà tous mes films, mais il a cru que c'était une blague. Alors, il n'a pas répondu tout de suite. Mais quand même, Jean-Marc Rangé, il a réussi à le choper.
Lui faire comprendre que c'était un vrai projet.
Il a mangé des langoustes, je me rappelle très bien, dans un très bon restaurant, dans le 4e, je crois.
Et
oui, c'était vraiment très bien. Il y a Philippe Catherine qui n'avait jamais mangé une langouste de sa vie, et ce qui est très touchant, et il était très occupé par manger cette langouste qu'il adorait, bien sûr, avec de la mayo et tout ça. Et Christy ne s'intéresse pas du tout à moi. Parce que
quand tu es devant une bonne langouste, à part Anthony Bélanger qui s'en fout des langoustes et qui est amoureux de vous.
Alors il mangeait ça, il mangeait, il buvait des petits coudes. Langouste. Alors on sort du restaurant là. Et qu'est-ce que je vois taqué sur une espèce de mur là, juste en face. Il y avait marqué 2K. Je me dis, ça veut dire quelque chose. Ouais. Et je vous jure que c'est vrai, le lendemain, j'ai un coup de fil de Philippe Catherine qui me téléphone et qui me dit, j'ai une première chanson pour vous. Voilà, Anna. Parce que vous voyez quand même.
Bien sûr.
Est-ce que vous pouvez venir répéter? Il m'a donné la première chanson et puis après, il a écrit des chansons et il n'a même pas mis 2 semaines.
Et aujourd'hui, vous venez nous parler de votre compilation « Je suis une aventurière ». Alors vous allez nous dire, on va écouter quelques titres comme ça, à quel souvenir se rapportent ces chansons. On commence avec Jimmy.
Dans mon petit loft, au cœur de Paris.
Alors, c'est quoi là, l'histoire de Jimmy?
Alors l'histoire de Jimmy, c'est une petite chanson que j'ai écrite comme ça.
Ouais.
Parce que voilà, Philippe Evenot, qui était le guitariste aussi pendant toute la tournée, parce que ça a quand même duré des années, de l'orchestre quoi, avec Catherine. Et puis il a dit, pourquoi on ferait pas un album aussi, on essaye de faire des chansons et puis ça devient enregistré à Nantes. Voilà.
On passe à la deuxième chanson. Je suis une sentimentale.
Oui, c'est mon mari, oui. Ouais. Denis Berry qui a écrit ça. Oui. Je suis une sentimentale. Oui. Et voilà, ça, c'est une maquette, hein, en fait. Mmh. Parce qu'il n'y a que le piano et c'est une maquette qui a été enregistrée. Et c'est Stéphane Villa, il me semble, qui faisait le piano à l'époque. C'est lui, et puis on a fait ça. C'est même pas fait en studio, ça.
Troisième morceau qu'on écoute, c'est un duo.
Je ne parle pas anglais. C'est trop difficile.
Pour te dire que je t'aime.
C'est avec un Américain.
Mmh.
Oui.
Ils font tout à l'envers. Mais je dis I love you. Et le reste, on s'en fout. Les mots sont toujours les mêmes. Pour dire je t'aime.
Alors, quatrième morceau, c'est un morceau un peu féministe dans le titre. Le Messie sera féminin.
Ah oui, ça c'est Philippe Évenoux qui a écrit ça. Ouais. J'étais très étonné parce que je trouvais ça formidable.
Mais c'est formidable. Et on en revient à la fameuse phrase culte.
Qu'est-ce que je peux faire?
Ah, ça c'est Catherine.
C'est avec Philippe Catherine.
Je sais pas quoi faire.
Je chante tout le temps dans mes appartements.
Comme dans une musicale comédie.
Je suis une aventurière. 16 titres chez Ballandra. Notez qu'une version vinyle est prévue pour le 12 juin. C'est bien ça?
C'est ça, oui.
Alors bon, Anna Karina, si je ne laisse pas la parole à Anthony Bélanger, je mets ma santé en péril. Anthony, si je vous dis Anna Karina, qu'est-ce que vous me répondez?
D'abord que je suis un homme amoureux, ça, depuis toujours. Bon, parce que j'ai eu l'impression. Non, j'ai eu l'impression de vivre toute ma vie avec vous, en fait.
Moi,
Pour des tas de raisons que je vais essayer de vous nettoyer. D'abord, vous êtes danoise, on l'oublie parce que vous êtes une icône française de la chanson de la Nouvelle Vague. Vous êtes la mariée de la Nouvelle Vague. Mais vous êtes danoise, c'est-à-dire que vous avez deux cultures et puis vous avez ce fond d'accent qui traverse toutes les années 60 et les films des années 60 et qui, moi, m'a beaucoup touché en vous écoutant. Et puis, il y a une autre raison pour laquelle j'ai pas l'impression d'avoir passé ma vie avec vous. C'est parce qu'en 1965, vous retournez Pierrot le Fou et puis il y a cette chanson magnifique.
Maline de chance, dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses?
Oh,
mais
que
c'est
j'en pense.
Quelle
importance.
Serge Rezvani.
C'est fou ce que j'aime, ta ligne de hanche.
Mais c'est pas Jean-Paul.
Ta ligne de hanche.
C'est pas Jean-Paul.
Non.
Ma ligne de chance.
C'est pas Belmondo.
J'aime la caresser de mes mains.
Parce que lui, dans le film, il parle. Il chantait pas.
Ma ligne de chance.
Alors,
en studio, on a voulu le faire. Je crois qu'il a pas voulu le faire. Et je crois que Jean-Luc a chopé un technicien comme ça.
Et on n'a jamais retrouvé.
On l'a jamais trouvé pour lui donner ses droits de
l'auteur. Si je peux me permettre, apparemment ça, on l'a tiré directement du film. Ce serait Belmondo qui chante.
Alors c'est Belmondo.
Oui, 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 tiré du film.
Il parle.
Mais sur l'album, c'est pas Belmondo.
C'est pas Belmondo.
Alors moi, ce qui m'a frappé, la France, enfin tout le monde, en voyant ce film, qui est un film absolument merveilleux, c'est un film de liberté, un film où vous êtes, un film de jeunesse, un film d'une femme amoureuse, regardé par un homme amoureux en plus, un film d'un couple incroyable, c'est qui m'a donné envie de voyager. Et donc une partie de ma vie, personnelle en tout cas, et de beaucoup de gens, ont été un peu inspirés par ce film, qui ont eu envie de liberté. Moi je suis parti en Espagne, vous êtes venu en France, vous étiez danoise, moi je suis parti quelque part du côté de Madrid, et donc vous m'avez accompagné, y compris dans ce moment de ma vie où j'ai comme ça commencé à vouloir c'est parler.
Ah bah, il est comme ça, il est très touchant.
et puis il y a une autre aussi, peut-être une autre raison aussi qui me rend si amoureux de vous en fait, c'est cette fragilité. Encore une fois, on le voit dans l'accent, on le voit aussi dans la façon dont vous jouez. Vous avez ce regard caméra qui a frappé tout le monde, qui est unique. Puis vous avez aussi cette façon qui est toujours bordée larmes et du rire d'interpréter vos personnages et qui, je crois, ont bouleversé le monde entier et en tout cas m'ont bouleversé moi et continuent de me bouleverser quand je vous regarde. Et alors, je me souviens juste d'un moment, un moment un peu particulier, un moment dans Vivre sa vie de Godard, où vous regardez la caméra alors que Jean Ferrat chante à côté Mamoum, qui est probablement une de ses plus belles chansons. Et ce moment-là, qui n'est pas un moment à vous, qui est plutôt le moment qui appartient à Jean Ferrat, est un moment de grâce absolument incroyable que j'invite tout le monde à regarder. Et puis il y a une autre chanson aussi qui m'est restée en tête quand je pense à vous. On va l'écouter ensemble.
Froide et la plus chaude des blondes, prête à Marie à tes drons.
Ça, c'est avec
près d'un mari comme tout le monde, la vie s'envole et quand on s'affole, hélas il est trop tard d'agiter son mouchoir.
Les hommes, ils aiment.
Incroyable
les
chanson.
Femmes,
hommes, les femmes,
mais oui, il y a Claude Brasseur qui chante, vous chantez en même temps. Cette chanson a été reprise par Jeanne Moreau quelques années plus tard. Elle a été reprise par Jeanne Moreau, mais votre version est à la fois beaucoup plus potache, beaucoup plus drôle, beaucoup plus amoureuse.
C'est un dragé de poivre.
Beau, voilà. Exactement. Beaucoup plus, en fait, beaucoup plus intéressante parce qu'elle est beaucoup plus explosive et beaucoup plus amusée. Vous vous amusez en chantant, ah, ça oui. se voit sur les images et ça s'entend à l'écoute. C'est une chanson merveilleuse dans votre bouche.
C'est gentil.
Donc vous voyez, Anthony Bélanger, fan numéro 1 d'Anna Karina, qui signe Je suis une aventurière, 16 titres chez Balandra, à noter la version vinyle, le 12 juin, les amis. Anna Karina, Marion Bartoli, fini la galéjade, fini de rire, on va revenir sur vos vies, mais façon inter. On va vérifier si vous avez la fibre de gauche, si vous avez le cœur sur la main, on va vous intériser. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, on avait tant d'espoir avec Marion Bartoli, oui, tant d'espoir pour qu'elle devienne cette icône de la lutte des classes dont on a toujours rêvé. Petite, elle voit le jour au Puy-en-Velay, berceau idéal et sinistre pour faire de la petite Marion une héritière directe de la pauvreté spirituelle dans ce département qu'est la Haute-Loire, synonyme de désert culturel. Issue d'une famille d'origine corse, oh mon Dieu, la Corse, terre baignée, moitié soleil, moitié colère, et qui en son sein porta tant d'âmes révoltées contre les inégalités. Très tôt, elle pratique le tennis. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, le tennis, sport bourgeois et hautain par excellence, sauf qu'il est pratiqué par des êtres qui refusent l'ordre établi et veulent faire basculer les hiérarchies, faire chanceler les puissants. Mais tous ces signes d'une virtuosité anticapitaliste font-ils de Marion Bartoli une femme de cœur ?
Non !
Bien sûr que non ! Très vite, elle se met à jouer coup droit, revers à deux mains. C'est de la triche! Du coup, elle progresse au classement WTA. Elle devient une championne. Elle gagne même Wimbledon. Après, c'est la dérive. Elle accumule l'oseille. Elle en veut plus, toujours plus. Elle devient folle. Elle se fait à fabriquer des yaourts comme une vulgaire bulgare. Épicière! Est-on mieux loti avec Anna Karina? Mon Dieu, on y a cru fort, fort, fort! Mais on a eu tort, tort, tort. Pourtant, tous les voyants étaient au vert. Née au Danemark, probablement dans une grotte, elle symbolise la résistance de Néandertal face à une nature hostile, prisonnière des glaces. Attirée par l'esprit révolutionnaire, elle arrive à Paris, âgée de 17 ans. 17 ans, elle avait la vie devant elle pour prendre à bras le corps la condition humaine et ses souffrances. L'a-t-elle fait pour autant? Est-elle devenue une femme de cœur?
Non,
bien sûr que non. Elle s'engage dans le mannequinat, on se fait payer à être maigre. Elle rencontre Coco Chanel, vendeuse d'étoffes de luxe et de parfums capiteux. Ah, puis elle tourne une pub pour de la savonnette. Elle se fait repérer par Jean-Luc Godard qui la fait tourner à l'écran et en bourrique. S'en suivent des rencontres prestigieuses au niveau cinématographique, de Cukor à Fellini et même musical de Gainsbourg à Catherine. Rencontres à côté desquelles elle se frotte au succès et à l'oseille. Elle se goinfre la petite sirène de Copenhague. Morphale! Marion Bartoli, Anna Karina, vous n'êtes pas ce que la gauche a fait de plus scintillant, mais qu'est-ce qu'on est content de vous avoir avec nous pour célébrer les 82 ans de Saddam Hussein! Les amis, on est tellement content de vous avoir, on est ensemble jusqu'à 18h, vous les femmes, sur France Inter. Tout de suite, trop beau.
J'ai jamais
l'homme
vu
pâle.
De nuit aussi calme. Hey, je la regarde enchaîner les cigarettes. Hey, ces larmes coulent en silence, on entend toujours les cigales. On se blesserait même avec zéro mot. Pourtant aucun mur sur cette terre ne pourrait étouffer le cri de nos phéromones. On risque pas de tenir longtemps. Tu m'as même comparé à Lucifer. Maintenant tu bois et tu veux bien de moi. Non mais j'hallucine hein. Je sais déjà ce que la distance entraîne. Soit c'est la guerre pendant 10 ans sans trêve. Soit je la quitte en lui disant: garde le sourire, plus rien n'est grave. Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne, nos deux corps pourraient mourir. J'ai déjà fait le deuil. Maintenant pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit: c'était trop beau pour être vrai. Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions m'effraient. Je te déteste comme cette phrase qui dit: c'était trop beau pour être vrai.
Yeah.
Bébé, ça moins fort que j'oublie que c'est le chaos. Autour, c'est le chaos. Regarde-nous, le destin, pas honte. Les dieux ont pas honte. J'ai tout foiré cette année, c'est toujours en chantier. Est-ce qu'on peut revenir en janvier? Son regard me traverse le corps comme une longue aiguille. On dirait bien qu'on est cuit. Nous deux dans la même voiture, on fonce vers la mort. On se déteste tellement qu'on refait l'amour. Parce que c'est comme de la drogue, on aquaplane. Sur son dos, mon corps, je fais de l'aquaplaning. Le problème, c'est que ça me rappelle pourquoi je l'aime. Je revois le début, les premières semaines. On pourrait repartir à zéro et prendre le premier avion comme dans un film de merde. Mais c'est du délire, garde le sourire. Plus rien n'est grave. Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne, nos deux corps pourraient mourir. J'ai déjà fait le deuil. Maintenant pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai. Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions m'effraient. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai.
Trop beau, l'homme pâle sur France Inter.
Vous les femmes.
Oh, ange de douceur.
Daniel Morin.
Ouais, étant ouais. Sur ma souffrance.
Sur France Inter.
Le charme caressant de ta douce présence.
En compagnie de Marion Bartoli, une de nos rares championnes à avoir remporté Wimbledon et avoir inventé un yaourt peu de temps après, elle vient nous voir pour son dernier livre.
Vous avez bloqué sur le yaourt, j'ai fait plein d'autres choses, mais alors
j'ai
vous êtes bloqué sur le yaourt.
Le yaourt et Wimbledon. Paru chez Flammarion, ça s'appelle Renaître. Anna Karina est également présente, muse de la nouvelle vague, comédienne, chanteuse, qui vient nous présenter son album compilation Je suis une aventurière chez Balandra, à noter le 12 juin, la sortie version vinyle. Mesdemoiselles, je vais vous présenter une deuxième fois Albert Algout qui nous brosse chaque semaine le portrait d'une femme exceptionnelle et pourtant mal connue ou carrément méconnue. Cette semaine, c'est Catherine Switzer. On vous écoute, Alberto.
Alors, l'histoire de la place faite aux femmes dans le sport recoupe l'histoire des préjugés qui freinèrent et freinent encore la marche vers une totale égalité des droits entre les hommes et les femmes. Alors, j'ai déjà évoqué ici le destin de certaines sportives qui ont ouvert la voie à cette égalité, mais aujourd'hui, il était donc une femme, Catherine Switzer. Catherine Switzer est née en 1947 en Allemagne. Quand son père, colonel dans l'US Army, retourne aux États-Unis, elle suit des études de journalisme à l'université de Syracuse et pratiquant le cross-country, elle doit s'entraîner avec des étudiants car il n'y a pas d'équipe féminine. Des stéréotypes rebattus, dont une supposée fragilité des femmes, expliquent cette situation, on y reviendra. Ainsi, au JO, les femmes ne sont pas autorisées à courir des distances excédant 800 mètres à cette époque. Une exception aux USA, Roberta Gibb, qui en 1966 participe au marathon de Boston, mais sans être inscrite officiellement. Catherine Switzer, qui admire Roberta, demande à son entraîneur, à l'entraîneur de son équipe, de la laisser courir le marathon de Boston avec lui. Racontant plus tard les hésitations de son coach, Catherine Switzer dira, non sans humour, qu'il était encore imprégné des préjugés selon lesquels, elle le citait, une femme trop sportive risque de se retrouver avec de grosses jambes, la poitrine velue et l'utérus qui descend. Pour convaincre Gibbs, mais c'était les préjugés de l'époque, pour convaincre Gibbs de son endurance, Cathy court alors 5 miles en plus que la distance prévue et il est convaincu. Le 19 avril 1967, au moment de prendre le départ, elle porte le dossard 261. Vêtue d'un survêtement, elle a tenu à se maquiller et à mettre du rouge à lèvres. À ses côtés courent son entraîneur et son compagnon Tom, solide athlète, champion de lancer de marteau, ce qui va se révéler, on va le voir, très utile. Au 6e mile, un des organisateurs crie à Cathy de s'arrêter. En vain. Le directeur de l'épreuve tente alors de stopper la course de Cathy. Il s'agrippe à elle et essaie de lui arracher son dossard tout en criant « Tirez-vous de ma course, tirez-vous de là et donnez-moi ce dossard ». D'un coup d'épaule, Tom, le lanceur de marteau, balance le directeur sur le bas-côté. Cathy peut continuer et dit alors à son entraîneur « Je veux finir à genoux s'il le faut, sinon personne ne me prendra au sérieux, à commencer par les femmes ». À l'arrivée, elle a mis une heure de plus que le temps effectué l'année précédente par Roberta Gibb, son idole, mais les photos de l'incident sont diffusées dans la presse américaine et font le tour du monde. Catherine Switzer est disqualifiée, suspendue par la Fédération américaine d'athlétisme qui s'obstine à interdire aux femmes les courses sur route. Cathy milite alors activement et avec succès pour que les femmes dans le monde entier puissent participer aux courses de fond. En 1972, elle termine deuxième du marathon féminin de Boston. En 1974, à New York, elle remporte la première place. Grâce à son combat, en 1984, enfin, au JO de Los Angeles, se déroule le premier marathon olympique féminin. C'est pas si vieux. Le 17 avril 2017, à 70 ans, un demi-siècle après sa première participation, Kathy Switzer court pour la 9e fois le marathon de Boston avec le même numéro de dossard qu'en 1967. Et il y a un an, presque jour pour jour, en avril 2018, elle participe au marathon de Londres qu'elle termine en 4h44 minutes et 49 secondes. Total respect pour Catherine Switzer.
Vous aviez entendu parler de cette championne ?
Absolument pas.
C'est incroyable quand même le parcours de ces femmes qui tenacent un peu, on retrouve
oui,
des qualités
tennis,
que
ça a été vraiment
avoir.
Billie Jean King, par ce match, effectivement.
Mais on retrouve la hargne, la volonté aussi, malgré tout, de vouloir,
oui,
de vouloir y arriver.
Ce que je trouve exemplaire, c'est aussi de ne pas être simplement quelque chose d'égoïste pour soi-même, c'est vraiment pour la liberté, pour l'expression de toutes les femmes. Et c'est grâce à Billie Jean King, si on a pu aujourd'hui être quasiment au même niveau de salaire que les garçons, même s'il y a encore des vraiment de grands voilà de grandes exactement
dans
de
les
grandes
tournois,
différences
il y a quelques tournois qui sont qui
beaucoup
pas
de tournois beaucoup de tournois en fait on est payé aux mêmes rémunérations que les garçons que les hommes uniquement sur 4 tournois dans l'année.
Je rappelle que tous les portraits de Il était une femme sont à retrouver sur le site, c'est facile, le site s'appelle Il était une femme.
Vous les femmes
oh, c'est trop horrible.
Sur France Inter.
Des projets, mesdemoiselles, on commence par vous, Marion. C'est quoi le futur de Marion Bartoli ?
Là, tout de suite, c'est Roland Garros. Roland Garros Wimbledon aux commentaires.
Les commentaires,
bien sûr,
évidemment.
En français et en anglais, d'ailleurs. Et puis, ensuite, continuer mes activités de créatrice. Alors, pas au niveau de Coco Chanel, bien sûr, mais je dessine des vêtements de sport. Donc,
on l'a dit tout à l'heure, des bijoux, des vêtements.
Oui, effectivement. Mais surtout, maintenant, aujourd'hui, je me suis réellement concentrée sur les vêtements de sport parce que ça me prend énormément de temps et c'est 4 collections par an et c'est beaucoup. Toutes les tenues de tennis portées par les athlètes pour la marque qui m'a engagée. Donc, c'est énormément de travail. Ça, plus les commentaires, plus le livre qu'il a fallu faire où ça a été vraiment une grosse introspection. Ça n'a pas été facile pour moi de me livrer autant et de raconter autant de choses. Donc, pour une année, ça suffira. Et puis, m'occuper aussi de mon compagnon, puisque voilà.
Ça y est, j'en étais sûr. Voilà, un mec. Ça ne sert à rien, cette émission. J'avais invité exprès. Enfin bon, tant pis.
J'espère.
Je vous souhaite beaucoup de bonheur, mademoiselle.
J'espère pouvoir lui apporter quelque chose. Et pour apporter quelque chose à quelqu'un, il faut quand même passer du temps avec lui, donc lui consacrer aussi du temps.
Et vous, Anna Karina, vos projets ?
Le mois prochain, là.
Ouais.
Je vais partir au Portugal. Dans le festival, là, à Lisboa.
Lisbonne.
Voilà. Mmh. Où il y a, je crois, qu'il y a plus de 20 films. À présenter.
Oh, exceptionnel.
Voilà, presque une petite semaine, quoi. Je dirais 5-6 jours. Et puis, il y a mon mari qui a fait un documentaire sur moi qui va être présenté aussi. Et puis, après, on est maintenant habité aussi en Tchécoslovaquie, près de Prague, à la Cinémathèque de Tchèque, quoi.
Programme chargé, mais je vous le dis, là, depuis aujourd'hui, jetez un œil par-dessus votre épaule pour voir si Anthony Bélanger n'est pas juste derrière vous, à vos épiers, avec des lunettes de soleil et un petit chapeau. Tellement content de vous avoir reçu, mademoiselle, qu'on va vous offrir des cadeaux. Les cadeaux, c'est l'affaire d'Alberto.
Alors, pour vous, Anna Karina, LFC Magazine bimestriel. Alors, c'est un mag qui est né d'un site et d'un magazine digital gratuit et mensuel qui s'appelle La Fringale Culturelle, LFC. C'est la version imprimée, là, qui traite de la pop culture sous toutes ses formes. C'est par abonnement via le web. Alors, pour vous, Marion Bartoli, eh bien on quitte les cours pour une piscine. C'est une BD de grande qualité, c'est Les Brûlures de Zidrou et Laurent Bonneau, le dessinateur. Zidrou, c'est un grand scénariste. C'est la collection Grand Angle, c'est un thriller haletant, histoire de meurtre et de natation.
Les amis, l'émission est terminée. Merci à Marion Bartoli, merci à une de nos rares championnes, Wimbledon, vous vous rendez compte. Elle venait nous voir pour son dernier livre paru chez Flammarion, Renaître, livre très honnête. Et là, elle est très occupée, elle part, commentaire de Roland Garros, ligne de vêtements. Et elle est également s'occuper de son chéri, Anna Karina, muse de la nouvelle vague qui nous a présenté son album Je suis une aventurière chez Balandra, version vinyle, je le rappelle, le 12 juin. Et là, elle est en partance pour le Portugal pour un festival qui lui est consacré. Merci Alberto, merci Albert Algou.
Je vous remercie.
Merci Anthony Bélanger.
Merci à vous, je peux mourir maintenant, c'est bon.
C'est vrai. Attendez encore 30 secondes, histoire qu'on close. Réalisation de cette émission, c'est Marie-Annie Rimbaud, attachée de production Christine Kern, à la technique Alexandre Chenet, programmation musicale à Thierry Dupin. La semaine prochaine, nos invités seront Eliette Abécassis et Sarah Ouramoun. Au revoir et bon dimanche à l'écoute de quoi ? Bah, de France Inter, bien évidemment.
Et gros bisous à tout le monde.